Très bonne fin de semaine, messieurs, dames, et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres, avant de commencer, les ministres de l'Agriculture, Environnement et les Ressources Naturelles du COMESA n'ont pas répondu, présents au rendez-vous de Kinshasa. Seuls les experts qui se réunissent depuis mardi à Kinshasa ont clôturé vendredi la sixième réunion. Le mauvais état des tronçons routiers Kisangani-Ubuntu en province orientale, Akoulagemena-Zongo dans la province de l'Équateur ralentit les activités commerciales dans ces parties du pays. Ces tronçons sont marqués par de grands bourbiers et des ponts effondrés. Ceci rend difficile le trafic. Investir dans le secteur agricole et dans l'industrie en République démocratique du Congo, ce sont là deux cahiers sectoriels que l'Agence nationale pour la promotion des investissements a présenté mercredi à la presse à Kinshasa. Ces documents contiennent les informations spécifiques dont tout investisseur a besoin avant de s'engager. Et pour en parler, nous recevons le directeur général de l'ANAPI, le professeur Boaboua Kayembe, qui est notre invité dans ce studio. Professeur, bonjour et bienvenue dans ce studio de Radio Okapi.
Bonjour.
Devant le micro, Daniel Tambinzoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Et tout de suite, le résumé de la semaine. Premier dossier, la rencontre des ministres de l'Agriculture, Environnement et Ressources Naturelles, COMESA, s'est clôturée vendredi à Kinshasa.
Il était question d'évaluer les recommandations de la précédente réunion qui demandait aux États membres d'élaborer chacun son plan d'investissement pour la commercialisation des produits alimentaires dans la sous-région. Les experts ont fait l'évaluation du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Et je vous propose un extrait de l'interview du secrétaire général à l'agriculture, pêche et élevage de la RDC, qui pense que le pays a fait des progrès considérables dans le secteur agricole. Écoutez Hubert Ali Ramazani.
14 pays sont en cours de processus, mais il y a encore 9 pays qui ont déjà finalisé leur plan d'investissement agricole dans notre pays. Nous sommes en train de voir comment les autres ont procédé dans leur milieu, dans leur pays, voir là où nous avons des retards, comment nous allons nous adapter pour aller de l'avant. Mais il y a des parties aussi que nous avons des avancées significatives. Je vous donne un exemple dans le cadre des programmes détaillés de développement de l'agriculture en Afrique. Il y a eu l'élaboration du plan national d'investissement agricole, PNIA, mais il y a aussi la possibilité de rechercher le financement dans le cadre de ce plan national d'investissement agricole. Et notre pays a déjà fait, avec des ressources propres, en attendant que les partenaires nous assistent, à deux grands projets qui ont déjà pris une centaine de millions de dollars, à peu près 160 millions, et qui sera suivi de 100 autres millions. C'est le cas de développement de la ferme agro-industrielle présidentielle de Lancelé, de Daipen. Et c'est le cas aussi des parcs agro-industriels de Bukangalonde. Et de l'identification de 22 autres parcs qui seront progressivement mis en œuvre avec les investissements que nous sommes en train de promouvoir la recherche de financement.
Deuxième dossier, la route Kisangani-Ubuntu, longue de 125 km, est en très mauvais état depuis juillet dernier. Des grands bourbiers, des nids de poules ainsi que la végétation qui envahissent la route à partir du pont kilométrique 3 jusqu'au 82e kilomètre. L'état de cette route est à la base du ralentissement du trafic ainsi que du commerce sur cet axe routier.
Voilà, la même dégradation est constatée sur la route Zongo-Gemena à Koula à l'Équateur, et c'est là au moment où les travaux de sa réhabilitation viennent de commencer. Les crues, travaux de sa réhabilitation viennent de commencer. Les crues de cours d'eau qui traversent cette route avec des précipitations en cette saison pluvieuse ont accentué la situation. Nombreux sont des camionneurs qui ont garé leur véhicule en attendant que la situation s'améliore. Entre-temps, le prix de denrées alimentaires qui sont devenus rares à Zongo ont pris de l'ascenseur. Dominique Olumbi Mungapange nous en dit plus.
La nationale 6 Zongo-Gemena Koula, longue d'environ 390 km, est l'épine dorsale de l'économie du sud Ubangi. C'est par cette route que paysans et opérateurs économiques évacuent leurs produits vers les ports de Zongo, de Libenge et d'Akoula. Depuis plus de 4 ans, cette route est devenue quasi impraticable avec des ports effondrés et plusieurs bourbiers le long du parcours. Certains camionneurs de Gemena affirment qu'ils mettent 2 semaines, voire un mois, pour atteindre la ville ville de Zongo. Même les motos y mettent 2 à 3 jours. La dégradation de la nationale Zongo-Gemena-Kula, déjà très avancée, est accentuée actuellement par les crues de cours d'eau qui traversent ces tronçons aux endroits où les ponts se sont effondrés et le long des digues. Les propriétaires de véhicules, pour mettre leurs camions à l'abri, n'ont trouvé mieux que de les garer en attendant que la situation ne s'améliore, ce qui a fait flamber les prix des denrées alimentaires tels que le maïs, les maniocs, les arachides et l'huile des palmes qui sont devenus rares sur le marché des Zongo. Entre-temps, les travaux de réhabilitation de cette route par l'entreprise tchèque PK Orgia n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Les machinistes attendent l'arrivée d'autres engins en provenance des Douala via la Centrafrique et les autres travailleurs exigent la signature préalable de leur contrat de travail. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Et le troisième dossier à Kinshasa, ce sont les groupes et associations des jeunes ressortissants de Kisangani qui sont montés au créneau. Ils dénoncent l'incertitude qui plane sur la réalisation du projet de construction de la cimenterie de la province orientale, le CIPOR.
Dans une pétition signée mercredi par une centaine de ces jeunes, ils demandent aux décideurs politiques du pays de mettre tout en œuvre pour la matérialisation de ce projet. Leur souci est de voir se réaliser le projet CIPOR en vue de résoudre tant soit peu certaines difficultés socio-économiques de la province. Willy Lokomba, coordonnateur de la cimenterie de la province orientale, parle ici de l'importance économique de cette industrie. Il est au micro d'Aliana Ali Panagama.
Les activités économiques principales sont constituées de la production, distribution et consommation. Il y aura augmentation de production à travers beaucoup d'entreprises qui vont naître. D'abord à travers la cimenterie elle-même, elle va augmenter très sensiblement sa production par rapport à la situation d'avant. Il y aura résorption du chômage. Dans un premier temps, on va commencer avec au minimum 300 agents pour les emplois directs. Et il y aura plusieurs emplois indirects parce qu'on va installer des dépôts de distribution pratiquement dans tout le pays et on va payer des commissions aux gens qui vont travailler là-bas. En amont, par exemple, il y aura naissance des industries nouvelles et augmentation des revenus des industries existantes qui vont fournir, par exemple, les matières premières. Certaines matières premières comme le gypse, les sociétés pétrolières vont augmenter leur production. Il y aura, par exemple, des gens qui vont fournir des matériaux de construction, ainsi de suite. En aval, il y aura naissance, par exemple, des industries qui ont un rapport direct avec les travaux de construction, par exemple, les industries de carrelage, tout ça. Donc, c'est une industrie complète qui contribue très sensiblement à la croissance économique.
Willy Lokomba, coordonnateur de la cimenterie et de la province orientale, qui parlait au micro de Aliana Ali Panagama, et c'est la fin de cette première partie. Professeur, vous avez compris certainement que dans cette première partie, nous avons ramassé l'actualité par rapport à l'agriculture, par rapport à l'industrie et par rapport aux infrastructures routières où à Kisangani comme à Gemena, Zongo, et les routes ne sont plus bonnes et ça ralentit l'actualité, l'activité économique. Ceci rentre bien dans les cahiers sectoriels que vous avez publiés il y a quelques jours dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur de l'industrie en République démocratique du Congo. C'est encore possible, on peut encore investir dans ce secteur en RDC.
Oui, effectivement, c'est possible d'investir dans ce secteur et nous sommes en train de chercher à attirer des investisseurs étrangers mais également des investisseurs locaux, nationaux, à s'intéresser à ce secteur qui sont très très importants pour tout pays dans le monde et pour la République démocratique du Congo. Et je crois que nous ne pouvons pas être un pays qui ne fait que consommer des biens qui viennent de l'étranger, dans le domaine de l'agri-industrie ou bien de l'industrie d'une manière de transformation d'une manière générale. Il faut donc qu'on puisse s'organiser pour avoir une visibilité dans ce secteur-là.
Et professeur, justement, nous sommes aujourd'hui, on est en train de parler, nous sommes samedi. C'était en principe aujourd'hui que les ministres de l'Agriculture, Environnement et Ressources Naturelles allaient clôturer cette réunion de COMESA. Mais malheureusement, les ministres n'ont pas répondu au rendez-vous de Kinshasa, craignant pour Ebola. Ils allaient travailler également nécessairement sur ce dossier de l'agriculture. Comment vous accueillez cela?
Bon, c'est peut-être regrettable, mais ce n'est pas grave. Parce que je pense que c'est vrai de compter sur les efforts des partenaires de la sous-région ou bien des partenaires d'autres pays, mais il faut aussi compter sur ses propres efforts, sur l'organisation et la stratégie que nous pouvons mettre en place nous-mêmes pour développer l'agriculture. Donc, s'ils ont peur de l'Ebola, pensant qu'il y a Ebola à Kinshasa, je crois que c'est tout à fait normal. Nous ne devons pas en faire un problème, nous devons continuer à travailler pour améliorer nos standards de fonctionnement.
Mais justement, nous prenons en main ce cahier sectoriel par rapport aux investissements dans l'industrie, dans l'industrie. Et dans l'industrie, vous avez dressé un certain nombre de tableaux où vous montrez des sites possibles à recevoir les investissements dans le secteur de l'agriculture. Mais dans ce tableau-là, nous voyons qu'il n'y a que Bukangalonzo qui jusque-là est lancé. Les autres jusque-là ne sont pas encore exploités. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce document?
Bon, nous voulons dire que c'est une stratégie du gouvernement. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour pouvoir booster l'agriculture. Et il a ciblé quelques sites, notamment à Bukangalonzo, dans les environs de Kinshasa. Et dans chaque province, il y a des sites également qui sont ciblés. Mais comme vous le savez, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par quelque chose. Là, le gouvernement a commencé par Bukangalonzo. C'est un site dans lequel les actions vont être menées, les actions publiques du gouvernement et les actions privées. Donc on est encore au début, parce qu'il faut aussi qu'on puisse chercher des investisseurs privés qui puissent aller s'installer dans Bukangalonzo. On est vraiment au début. Je suis sûr que le gouvernement va montrer son plan d'extension des activités vers d'autres sites qu'il a déjà déterminés pour que finalement ça puisse atteindre tout le pays. Donc il y a un planning de réalisation de ce projet qui doit encore être arrêté et être présenté pour qu'on voit exactement à quelle date on peut démarrer les activités dans tel coin, dans tel autre coin.
Et bon, il se pose souvent, professeur, puisque vous appelez les investisseurs à venir investir en RDC dans le secteur de l'industrie, dans le secteur agricole, c'est bien, mais il se pose souvent en RDC un problème d'accès à la terre. Est-ce que quand ces investisseurs vont venir, est-ce que ça ne va pas accentuer ce problème puisque les Congolais eux-mêmes n'ont pas encore facilement accès à leur terre pour faire l'agriculture?
Bon, il va se poser certainement ce problème. Mais on ne peut pas non plus laisser ces terres-là en jachère comme ça pendant des années et des années sans chercher à les exploiter. Ça sert à quoi de dire que, parce que dans notre constitution, on dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc la terre appartient à l'État dans notre pays. Mais si la terre appartient à l'État, l'État ne doit pas la laisser comme ça pendant des années et des années. Il faut l'exploiter. Il faut des grandes exploitations agricoles qui puissent permettre de disposer des biens dont la population a besoin, comme je l'ai souligné, et des biens qui peuvent également être exportés. Il y a des terres coutumières qui doivent être protégées. Donc des terres qui appartiennent aux communautés villageoises ne seront pas concernées dans ce programme-là d'accès à la terre. Mais des terres qui ne sont pas nécessaires pour les communautés villageoises seront attribuées aux investisseurs pour qu'ils puissent développer. Il y aura quand même quelque chose de positif, c'est que les investisseurs vont employer le personnel local, ils vont mettre en place des capacités de production locale, et ça va réduire la pauvreté à travers le pays, et je crois que c'est une bonne chose.
Professeur Bobowa Kayimbi, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ce n'est pas chaque jour qu'on peut mettre la main sur vous comme ça. Dites-nous aujourd'hui un peu, quel est l'état des investissements en RDC? Est-ce que le climat, il est propice au regard de toutes les publications nationales et internationales qui concernent l'économie? Est-ce que la RDC est une terre propice pour les investissements aujourd'hui? Est-ce qu'il y a espoir, il y a lieu d'espérer?
Ben, j'aimerais tout d'abord dire que vous pouvez mettre la main sur moi à tout moment.
Justement, vous n'avez jamais reçu, refusé notre invitation, c'est voilà, ça je le dis. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Maintenant, est-ce que le pays est propice aux investissements? Je dirais directement que oui. Et est-ce qu'il y a des difficultés? Je dirais également oui, parce que on vient d'avoir une réunion là qui a montré certaines difficultés. Il y a des difficultés, notamment dans le domaine des routes, d'énergie, tracasseries administratives et d'autres domaines. Mais le problème, c'est qu'on est conscient de ces difficultés. Nous sommes en train de faire en sorte que ces difficultés diminuent pour permettre l'émergence des activités.
Parce que l'ANAPI
positives.
Porte l'image de la RDC à l'extérieur, mais lorsque vous portez cette image avec des difficultés comme l'accès à l'énergie, les routes qui ne sont pas... Mais sur le plan local, à l'endroit de l'autorité, est-ce que vous constituez vraiment des actions, vous menez des actions de plaidoirie à l'endroit de l'autorité aussi?
Oui, oui, nous faisons des actions de plaidoirie à l'endroit des autorités, mais... Vous savez, les autorités aussi sont limitées. par les contraintes budgétaires et d'autres contraintes qu'ils ont. Je crois que la bonne foi des autorités est là quand même. Si on s'était dit que voilà, nous sommes un pays avec des contraintes, donc on doit ne rien faire parce qu'il y a des contraintes qui sont là, mais notre option, c'était de dire qu'il y a des contraintes, nous devons travailler, nous devons montrer qu'il est possible de pouvoir travailler, aller de l'avant en réduisant progressivement ces contraintes-là. Je crois que c'est ça l'option que nous avons.
Nous allons revenir à vous, professeur, pour
malgré
parler...
ça, j'aimerais dire quand même que oui, la plupart de tous les opérateurs économiques qui sont installés en RDC, donc les investisseurs qui sont installés en RDC, je n'en ai pas vu qui se plaignent que le marché n'existe pas, ils ont fait des pertes, etc., etc. Si vous prenez des gens qui sont dans les supermarchés ou bien qui fabriquent des matériaux de construction ou bien qui produisent le riz, etc., ils sont quand même satisfaits du fait qu'il y a quand même un pouvoir d'achat qui est là. Quand ils produisent, il y a des consommateurs qui sont là. Donc, c'est bien, mais le gouvernement doit continuer à faire des efforts pour assainir ce climat des affaires.
Je le disais, nous revenons à vous pour parler, à la fin de cette émission, pour parler de ces deux cahiers sectoriels que l'ANAPI venait de publier. Le temps pour nous de prendre les autres infos de la semaine.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres nouvelles de la semaine en plus, bref, la ministre néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement a clôturé sa visite officielle mercredi matin au Nord Kivu. Liliane Ploumen, lors de son séjour de 48 heures en RDC, a visité entre autres la zone d'exploitation de la cassitérite, du coltan et du manganèse de Rubaya. D'après elle, la RDC produit désormais des minerais libres de tout conflit armé, mais devrait cependant lutter pour faire à ce que ces ressources naturelles bénéficient réellement aux Congolais.
Nous restons dans le Grand Kivu et à Kalima précisément, où les comptoirs privés agréés sont appelés à se procurer de minerais sur place. Le vice-président de la société civile du Kivu et du Maniema, Sakima, qui a lancé cet appel, affirme que sa société a une production mensuelle estimée à plus de 250 tonnes de cassitérite pour une valeur estimée à plus d'$1,6 million. Et d'après lui, la Sakima ne s'oppose pas à l'achat de ce produit par les comptoirs privés comme les prétendent les revendeurs de la cassitérite.
Et à Kinshasa, c'est Kenya Airways qui informe sa clientèle de ses nouveaux produits. Il s'agit de deux full cargo qui seront désormais organisés deux fois la semaine sur Kinshasa et un nouvel appareil qui va assurer le transport des passagers. On écoute le chargé du service cargo de Kenya Airways, Olivier Lufungula.
C'est depuis bien longtemps qu'on a toujours fait le cargo. Kenya Airways transporte la marchandise d'un point à un autre, mais c'est depuis l'année passé que Kenya Airways a mis à la disposition de ses clients le full cargo, donc un avion fret qui vient deux fois par semaine. Et c'est un avion qui a une capacité de 15 tonnes. Donc un nouveau produit que nous offrons à nos clients, aux entrepreneurs qui tiennent à faire sortir leurs marchandises du Congo vers l'extérieur. Donc,
si je vous ai bien suivi, M. Olivier, c'est depuis 2013 pratiquement que vous organisez le full cargo. Mais comment vous dites que c'est un nouveau produit? Pour la RDC, il est nouveau, mais il est ancien sur d'autres lignes.
Non, en fait, le service cargo a été toujours opérationnel. Mais on l'utilisait avant les avions passagers. C'est qu'on avait eu un problème avec la capacité. Donc, vous voulez envoyer plus de marchandises. Il n'y avait pas d'espace pour envoyer ces marchandises. Mais maintenant, on a compris le souci de nos clients et on a mis à leur disposition ces full cargo pour qu'ils puissent envoyer plus de tonnage vers les destinations qu'ils veulent. Dans le fret, il n'y a que de la marchandise. Et nous avons aussi le service de tracking. Vous pouvez suivre votre marchandise partout où elle se trouve. Et aussi nous appeler pour avoir les informations sur votre marchandise. Donc vous êtes pratiquement en contact avec votre marchandise, votre produit 24/24 par Internet. Pardon ?
Donc je suis à Kinshasa, j'envoie de la marchandise pour Bujumbura. Je sais à chaque point où la marchandise arrive, j'ai la possibilité de savoir à quel point elle se trouve.
Exactement. En entrant juste par email, vous faites www.kenyawes.com, vous allez à la rubrique cargo, vous faites entrer votre numéro de la LTA et ça vous dit quoi. Si vous n'arrivez pas, alors appelez-nous.
Monsieur Levy, merci. Un autre message à ajouter.
Kenyawes, toutefois, c'est une compagnie qui a aidé à développer la RDC, puisque nous avons commencé il y a très longtemps. Ça fait, par exemple, personnellement, ça fait plus de 15 ans que je suis là. Au début, on commençait avec un vol par semaine et aujourd'hui, nous avons 9 vols par semaine. Imaginez-vous quelle croissance. C'est-à-dire que la demande est là. Maintenant, pour satisfaire cette demande, c'est ainsi que nous emmenons de nouveaux produits et nous changeons notre manière de leur servir pour qu'ils puissent s'y retrouver roi. Notre mission et notre vision, c'est d'abord de réussir à satisfaire notre clientèle. Surtout ceux qui nous écoutent, qu'ils viennent essayer ces nouveaux types de Boeing et ils ne seront pas déçus.
Parlons de cette contre-performance de la Gérard Ituri pour le mois d'octobre. Les fonds produits par le service générateur de recettes sont très faibles par rapport aux assignations. C'est le constat fait par le directeur provincial de la Direction générale des recettes administratives et domaniales à l'issue d'une tournée dans les territoires d'Arou, Mahagui et Irumu. Il indique par exemple qu'au mois d'octobre dernier, les services de ressort de Bounia n'ont réalisé que 40% des assignations. Il justifie cette situation par l'absence des cultures fiscales de la part de certains opérateurs économiques, mais aussi le détournement par certains agents.
Pendant ce temps, la DGRAD Idiofa dans le Bandundu avait scellé 5 structures sanitaires privées, 3 pharmacies et 3 moulins depuis jeudi de la semaine dernière. Selon le chef du ressort de cette régie financière, ces actions interviennent dans le cadre du recouvrement forcé des recettes du trésor public. Il affirme que ces firmes n'ont jamais payé depuis une année la taxe poids et mesure du ministère de l'Industrie, mais aussi la taxe rémunératoire annuelle dans le domaine de l'environnement.
Pour terminer, l'échéance de souscription de déclaration de l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper, impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et la taxe sur la valeur ajoutée, c'est aujourd'hui samedi. Ainsi, la DGI, entendez Direction Générale des Impôts, informe les assujettis qu'ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard lundi 17 novembre. Passé ce délai, elle appliquera des pénalités fiscales conformément à la loi.
Merci François et nous allons retrouver notre invité, le professeur Bobo Akayembe, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. L'ANAPI venait de publier 2 cahiers sectoriels importants sur le secteur agricole. Il appelle les investisseurs à venir visiter le secteur agricole de la RDC et l'autre appelle les investisseurs à venir dans le secteur de l'industrie. Pourquoi, professeur, avoir choisi seulement ce moment pour publier ce cahier? Et dans ce cahier, qu'est-ce que l'investisseur peut trouver comme information?
Bon, pourquoi avoir choisi ce moment? Je crois qu'il n'y a pas de réponses à cette question, sauf que c'est un moment qui a été jugé opportun pour nous de pouvoir le faire. Mais en fait, nous disposons de la mouture de cahiers, de ces cahiers depuis des années, parce que ce sont des instruments de travail de nos agents. Nous avons des hommes secteurs, ce qu'on appelle les hommes secteurs. Par secteur, il y a une mouture du travail qui est là, qui est améliorée tout le temps par les agents. Et nous avons estimé que maintenant, il faut le faire parce qu'il faut maintenant diffuser cette information. Parce que notre pays souffre beaucoup du manque d'informations. Parce que si on n'a pas d'informations sur un pays, ça reste un trou noir. Donc nous avons fait ça et nous allons traduire ce cahier également en anglais pour que les anglophones puissent y accéder. Pourquoi nous avons choisi de faire l'agriculture et l'industrie? Bon, mais ça c'est aussi tout à fait un choix qui est arbitraire. Parce que mais nous savons quand même que l'agriculture c'est vraiment la base de tout. Parce que ça produit des biens de base dont la population a besoin pour sa subsistance. Donc, à mon avis, c'est le secteur le plus important. Et l'industrie également, c'est un secteur important parce que, à l'échelle mondiale, regardez par exemple le nombre de Congolais qui sont en train d'aller vers des pays d'Asie, Chine, etc., pour acheter des biens par avion. Ça fait beaucoup, beaucoup de Congolais qui vont là-bas pour acheter des biens, notamment dans le secteur de matériaux de construction et d'autres domaines, ou bien les biens
alimentaires aussi.
Alimentaires et autres.
Ouais.
Donc, développer l'industrie localement, c'est peut-être espérer mettre fin à de tels mouvements qui sont pathétiques, qui sont tout à fait regrettables, de voir des gens. Et ça fait une saignée pour le trésor congolais, parce que c'est de l'argent qui quitte notre pays, qui part à l'étranger. Bon, mettre en place une industrie locale, c'est vraiment assurer, disons, l'autosuffisance ou bien l'indépendance économique du pays. Et on ne peut y aller qu'en commençant. Donc, c'est pour cela que nous voulons inviter les Congolais à s'engager dans ces deux secteurs qui sont très, très importants. L'industrie vous permet de produire des biens en grande quantité, de sorte à satisfaire vos propres besoins, le besoin de la communauté, et d'exporter le surplus.
Ah, donc, lorsque l'ANAPI parle des investisseurs, il ne parle pas seulement, il n'appelle pas seulement les étrangers à venir. Ah. Le message est adressé aussi aux nationaux.
Surtout aux nationaux. Même les étrangers dont on parle, ils ne seraient pas intéressés à venir au Congo s'ils se rendent compte que les Congolais eux-mêmes ne font rien. Mm-hmm. Ils peuvent venir lorsqu'ils peuvent se dire qu'ils vont établir des partenariats avec les Congolais qui font déjà ce business-là dans leur pays.
Professeur, peut-être avant de terminer, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, Doing Business venait de rendre public son rapport pour l'année
le rapport 2015.
Vous avez certainement eu lecture de ce document. Vous qui travaillez dans ce secteur, comment vous avez reçu les points obtenus par la RDC sur ce classement?
Bon, mais en fait, on venait d'en parler avec vous. Mm-hmm. On a parlé un peu du climat des affaires, des routes, de l'énergie et d'autres, et même des financements qui font.
C'est ça qui nous fait perdre un peu de points.
On savait bien qu'on arriverait à ce classement-là, mais on a quand même pris beaucoup de lois aussi. Donc, ils ont dit que nous sommes parmi les 10 pays en Afrique qui ont beaucoup réformé, qui ont pris des lois, mais peut-être que du fait que ces lois ne sont pas encore appliquées comme telles, comme il se doit sur le terrain, donc nous n'avons pas bougé notre position. C'est bien de savoir ce qu'ils pensent de nous, mais je crois que moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours ses propres efforts. C'est mieux peut-être que nous puissions regarder ce que nous pensons de nous-mêmes, ou bien ce que nous faisons pour améliorer nos standards de fonctionnement nous-mêmes. Et je crois que ce n'est pas toujours bien d'avoir un préfet de discipline à l'extérieur là-bas qui dit voilà, mais nous-mêmes nous devons fournir des efforts pour améliorer nos standards nous-mêmes. Et il y a beaucoup de choses même qui ressortent du doing business, qui ne sont pas dans le doing business, qui ressortent du doing business et qui font partie du climat des affaires sur lequel nous devons travailler pour améliorer notre manière de fonctionner.
Et aussi, professeur, peut-être ce serait tôt de faire un petit bilan de 2014 finissant, mais je pense que vous êtes à l'ANAPI, vous savez, est-ce que l'année 2014 a été enregistrée de nouveaux hommes d'affaires qui sont venus s'installer en RDC? Le week-end passé, je vous ai vu dans une manifestation où on lançait une nouvelle compagnie de télécommunications. Heureusement, je vous avais vu là. C'est un fruit de 2014 et en dehors de celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres investisseurs qui sont venus, de nouveaux, qui sont venus en RDC en 2014?
Oui, je peux vous assurer que on ne se repose pas en fait. Chaque jour, on travaille beaucoup, on reçoit beaucoup de gens, beaucoup de projets. Ça va être entre 140 et 150 projets. Donc YOSMA, c'est un projet parmi 150 projets.
Pour 2014.
Pour 2014, et puis nous arrivons certainement à 4 milliards, ou moins de 4 milliards de dollars. Donc chaque année, chaque jour, il y a des choses qui s'ajoutent à ce que nous avons fait. Et nous fournissons des efforts pour toujours faire mieux.
Un petit message aux investisseurs qui vont vous lire. Comment ils vont retrouver ces documents, investir dans l'industrie et investir dans le secteur agricole? Comment ils vont retrouver ces documents?
Non, pour le moment, s'ils sont au Congo, ils peuvent passer à l'ANAPI. Mais nous allons le mettre aussi dans les aéroports,
oui.
Et dans certaines bibliothèques, certains coins ou des hôtels.
Ils ont un prix.
le prix c'est $15. Donc c'est quelque chose qui va être à leur disposition parce que nous voulons que ça soit un incitant. En disant ça, ça les incite à pouvoir s'engager dans ce secteur et nous allons aussi continuer à publier pour d'autres secteurs. D'ici la fin de l'année, on va ajouter encore deux secteurs et puis on va continuer l'année prochaine.
Professeur Bob Wakayimbi, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation.
Merci beaucoup, mon ami.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté votre attention. Merci. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radioocapi.net. François, le rendez-vous avec l'actualité économique pour la semaine prochaine.
Voilà, chaque semaine, de lundi à vendredi, vous avez Écho d'économie à 18h15 sur Radio Capi.
Très bonne fin de semaine à toutes et à tous, au revoir.